Bonsoir, bienvenue au Café Citoyen de Bourges. Les Cafés Citoyens, pour les présenter, c'est en quelque sorte l'école de la démocratie. Ça permet à redonner aux citoyens le goût du débat et de s'impliquer dans la démocratie. Les règles du jeu du Café Citoyen sont assez simples. La première, c'est de lever la main pour prendre la parole. Le micro sert de bâton de parole. Deuxième règle, c'est de ne pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire que vous venez ici en tant que citoyen. Si vous avez une appartenance à une association, un groupe politique ou une religion, vous pouvez garder votre conviction, mais en aucun cas faire de la démagogie ou rester concentré sur le thème du débat, en tout cas. Et pour les gens qui seraient des spécialistes du débat de ce soir, on les remercie de nous apporter leur lumière sur le thème proposé ce soir, mais sans pour autant monopoliser tout le temps de parole. Donc ça, c'est les trois règles du jeu principal du débat citoyen. Donc le thème de ce soir, c'est comment dépasser ses peurs pour mieux appréhender l'avenir. Voilà, moi, je vais laisser Yann exposer le thème dont il a eu l'idée il y a déjà 2 mois. À toi, Yann. Bon café citoyen.
Bonsoir. Alors, comment dépasser ses peurs pour appréhender l'avenir? Alors, le sens de peur que j'ai voulu évoquer, c'était la peur de l'inconnu, et qui est un peu aussi liée à la méfiance, et qui ne sont pas les peurs anxiogènes ou phobies. C'était pas celle-ci, c'était plus la phrase, du moins une idée, c'était de sortir des ténèbres pour renaître à la lumière. C'est un peu symbolique, mais c'est sortir de l'ignorance pour rentrer dans une zone de connaissance qui n'est pas rassurante, mais la peur n'empêche pas le danger, mais d'avoir une prise, une appréhension, c'est-à-dire saisir par la conscience pour envisager, appréhender des solutions. Et donc le sens de ma suggestion était, dans ce cadre-là, de dépasser ses peurs, c'est-à-dire arriver à les nommer, à les reconnaître, pour, sans que ça les élimine, pouvoir réagir face avec un équilibre qui nous permette d'appréhender avec une certaine sérénité, moins effrayant que anxiogène que ça pourrait être. Donc c'était un peu sommairement mon approche du thème. C'est tout ce que je peux présenter, si c'est suffisant à éveiller votre action.
Parfait. Alors, est-ce qu'un veut réagir donc sur le côté des peurs et quelles sont les peurs et les nommer ces peurs pour pouvoir, parce que c'est bien, j'ai bien compris, pour pouvoir mieux les dépasser finalement ou les maîtriser. Donc, c'est des peurs personnelles systématiquement ou... D'accord.
Donc aujourd'hui, c'est les peurs qui sont les peurs sont actuelles, sont de tomber dans une réalité politique, économique, contextuelle, structurelle, c'est des grands mots, mais c'est on a des informations par les médias qui nous présentent l'économie ou l'économie de marché comme quelque chose d'inévitable, comme la seule voie. On est aussi ce qui donne des appréhensions et qui est anxiogène par le fait que beaucoup de personnes arrivent à un stress, et certaines personnes des politiques disent que le stress, c'est se sentir vivant. Mais le stress, quand il est porté à l'extrême, arrive à un repli sur soi, à une violence et au suicide. Donc, je pense pas que ça soit très vivifiant. C'est plus une déstabilisation psychique, le stress, qu'une stimulation à la créativité. C'est pas un stimulant. Donc, c'est par rapport l'appréhension de être dans une situation. La peur de perdre sa situation, une forme de confort de confort de social pour tomber dans un inconnu, parce que c'est aussi la peur de l'inconnu, c'est les ténèbres, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Et comment appréhender ce changement de société en avoir une critique personnelle et non pas redonner la parole à d'autres qui vont nous donner ce qu'ils pensent pour des vérités, c'est-à-dire avoir l'esprit critique, l'esprit citoyen de notre propre esprit critique sur ce qui nous arrive et qui n'est pas une fatalité. Donc, moi j'ai peur de l'économie, de la dette, de l'endettement, effectivement. Et est-ce que c'est pour les enfants, c'est pour les générations futures, on peut du moins mettre voilà un peu les craintes.
Ok. Je vaut mieux chacun son tour, hein, faut être un petit peu patient, on est plus nombreux que d'habitude.
Je veux juste rebondir sur la peur. La peur, elle est quand même naturelle. Parce que depuis que l'homme est homme, c'est ce qui lui a permis aussi de se préserver des menaces. Donc je pense que la peur est aussi utile. Alors après, il ne faut pas qu'elle conduise à l'inertie. Où elle est utile, c'est quand elle permet de sécréter effectivement l'adrénaline qui va nous permettre de répondre à une situation d'urgence. Si on se place sur le contexte économique, c'est vrai que là, on a beau avoir peur, malgré la montée d'adrénaline, on ne peut pas faire grand-chose. Si ce n'est en ayant une démarche comme ce soir citoyenne, c'est-à-dire en échangeant sur des principes et en échangeant sur des situations qui peuvent nous conduire à avoir un comportement plus en adéquation avec la société, de façon à justement plus être acteur de la société et moins subir les peurs. Donc c'est-à-dire les peurs vont rester, mais on va s'adapter à ces peurs en mettant en place des stratégies. Et c'est là en cela que la peur devient, je dirais, salvatrice, puisqu'elle nous permet, au fond de nous, de sécréter ce dont on a besoin pour y répondre, et donc de façon d'y faire face. Donc le but, c'est peut-être pas trop de combattre la peur, il faut l'accepter, mais l'utiliser comme une force qui nous permet de trouver l'énergie, justement, pour mieux y répondre. Et mieux répondre à la situation qui peut être anxiogène, avec effectivement tout ce qu'on peut entendre à l'actualité, voilà en tout cas ce que je pense.
Et bien aussi de détailler avec des expériences personnelles, parce qu'on est là pour être ensemble et partager nos expériences personnelles sur la peur et comment on a réussi à la vaincre.
Alors, moi personnellement, pour la partie peur de l'avenir, je sais que je la combats entre guillemets en ayant une maîtrise de mon présent aussi. Et c'est vrai que par exemple, dans la mesure du possible, sur des choses comme l'avenir de mes enfants, sur le chômage, quand on voit le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont au chômage, je combats en me disant si aujourd'hui, financière, même si c'est illusoire quelque part, je le sais, si j'essaye aujourd'hui au quotidien de mettre un peu de côté tous les mois pour déjà arriver à leur payer les études qu'ils souhaiteront, je me dis que c'est déjà peut-être un premier pas, même si ça n'empêche pas qu'il y ait plein de diplômés, qu'il y ait plein de gens aujourd'hui qui soient au chômage, mais je pense qu'en ayant cette maîtrise, cette contrainte que je m'impose aujourd'hui, je me donne l'impression d'avoir moins peur de l'avenir. Je pense que c'est aussi une solution que j'ai en me disant que je donne les chances que je peux aujourd'hui donner à mes enfants de réussir plus tard dans la vie. Et avec pas que l'aspect financier des études, mais aussi l'aspect des choses que je peux leur apprendre au quotidien, voilà, en leur donnant aujourd'hui les éléments qui me paraissent nécessaires pour l'avenir. Je pense que c'est aussi une façon de moins avoir peur de l'avenir.
Donc a priori, c'est un aspect économique, la peur.
Non, pas qu'économique. Non, rassure. L'aspect économique peut permettre de rassurer les peurs. Voilà.
Donc la peur, c'est donc un aspect économique qui peut être une solution ou une contrainte, parce que c'est l'avenir, c'est la peur qui... La peur et l'avenir. Tu parlais d'inconnu tout à l'heure. On ne connaît pas l'inconnu. On ne connaît pas l'avenir. On est donc dans l'inconnu. Et les inconnus génèrent donc des peurs. Ce que je perçois. Et pour toi, ta solution, ce serait maintenant tu prépares économiquement pour éviter d'avoir ce genre de frayeur. Et aussi intellectuellement. Justement, on peut jouer là-dessus sur l'intellectuel, le côté peur Et les médias, tu disais tout à l'heure, les médias qui cultivent la peur volontairement, s'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur cette idée.
Oui, justement, par rapport à tout ce qui a été dit à présent, il y a un problème, c'est qu'on reçoit des messages des médias, on n'analyse pas, on n'a pas finalement la possibilité de savoir quelles interprétations à partir de quoi ils l'ont donné.
Vous m'entendez là ?
Oui. Parce que bon, on sait que les médias, de toute façon, ils vont dans les agences de presse, ils reçoivent des telex, et puis il y a des interprétations. Pour arriver à se faire une opinion, il faut analyser très très large, et puis savoir quel crédit on peut donner à l'ensemble des messages qui sont donnés. Parce qu'il y a quand même des teintures qui sont politiques, qui sont de droite, de gauche, du centre, et il faut arriver à faire une synthèse pour essayer de savoir où est la réalité. Et la réalité, elle est difficile, sauf des gens qui ont des initiés, des initiés économiques, des grands financiers, elle est très difficile à percevoir. Donc elle peut très bien pervertir l'analyse qu'on en fait. Et je pense que ça, c'est une des difficultés qui existe actuellement, parce qu'on a une avalanche, que ce soit Internet, la presse écrite, la presse radiodiffusée, la télévision, Internet, pour arriver à se faire une opinion ou essayer justement de cerner la peur par rapport à l'ensemble des informations qui sont données, il y a déjà une analyse qui est difficile à faire. Et je ne sais pas quelle est... ça, je crois que c'est une équation personnelle. Mais c'est pas forcément, on n'aboutit pas forcément à une conviction.
Vous auriez un exemple personnel justement qui pourrait appuyer ce propos ?
Moi, j'ai eu professionnellement, je m'occupais moi à l'agence Havas de tout ce qui était presse internationale. Et la seule manière déjà de se faire une opinion, c'était on recevait tous les jours depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Vous pouviez aligner ça sur les commentaires d'un même événement. C'était même difficile en essayant de faire une synthèse de tout ce qui était écrit ou diffusé. C'était très difficile déjà d'arriver à sur une opinion. Donc il fallait toujours, à mon avis, il faut arriver à modérer. Pour l'instant, on parle de choses qui sont sur le plan financier, économique et général. Je crois qu'il faut le scinder entre les peurs ou les craintes personnelles sur des situations personnelles et puis les peurs et les craintes sur la situation qui est la situation générale que tout le monde vit dans la société.
Comme autre peur, je pense que ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être pour beaucoup, moi y compris, la peur du changement. Parce qu'on est dans une société, indépendamment du contexte économique, on est dans une société en mouvement, à différents niveaux. L'économie, effectivement, la société évolue. L'écologie est en train de modifier aussi nos habitudes de consommation. Donc là, il y a aussi une modification de nos façons de nous comporter, d'agir, de consommer. On le voit aussi par rapport à l'emploi. Il y a encore quelques années, quand on rentrait dans une entreprise, on pouvait espérer rester dans cette entreprise jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, il n'y a plus de retraite d'assurés, de moins en moins. L'emploi est particulièrement instable, et quel qu'en soit le domaine. Donc il y a aussi cette peur, je pense, pour beaucoup du changement. On parlait effectivement de l'information. Donc l'information aussi, elle a changé, puisque jusqu'à encore quelques années, il y avait la radio, la télévision. Aujourd'hui, le prisme d'Internet a fait introduire une nouvelle donne, c'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde peut aussi être vecteur d'information, c'est-à-dire que le particulier peut aussi mettre sur Internet des données, des informations, qui elles aussi, pour le compte, peuvent être de nature anxiogène, sans qu'il y ait véritablement, je dirais, derrière de contrôle. Parce que quand on passe par les médias traditionnels, il y a une ligne éditrice. Et effectivement, il y a tout de même un cadre. Internet n'offre plus ce cadre. Donc tout ça montre effectivement une société qui est en train d'évoluer, de changer. On le voit aussi dans le domaine médical. On a accompli des prouesses assez remarquables dans différents domaines. qui d'ailleurs mettent en lumière le danger de certaines substances. Donc ce qu'on consommait aussi avant, aujourd'hui on est censé moins le consommer. Et au gré aussi d'ailleurs des études scientifiques dont on est abreuvé, alors qu'on n'a pas forcément la connaissance non plus pour pouvoir justement en tirer des conséquences pour notre vie. Donc on voit qu'effectivement tout change, tout évolue très vite. Et je pense que pour beaucoup, la crainte, c'est un élément qui est surtout le changement, qui intervient partout, justement. Donc c'est sur cet aspect-là aussi où il faut véritablement appréhender ce changement, je dirais l'accompagner, et cet accompagnement passe effectivement par de l'information. Alors l'information, pas forcément la télévision, puisque l'information de la télévision est plutôt de l'actualité, et il n'y a pas véritablement de dimension pédagogique, ou en tout cas très informative. Et je pense qu'à notre niveau de citoyen, c'est d'essayer de s'informer à travers le croisement des données qu'on nous offre, et puis à travers un recul qu'il nous faut, parce qu'on a aussi au fond nous-mêmes des peurs qui sont les nôtres, et qui peuvent aussi interagir et nous empêcher d'avoir une vision assez claire. Voilà.
Donc c'est très général. J'arrive pas. Oui, je vous en prie. C'est fait pour.
Vous m'entendez? Vous parliez de la multiplicité des informations. Enfin, je sais que personnellement, je n'écoute plus la radio tous les jours. Je mets la musique le matin, le soir quand je rentre, je mets les radios musicales. Je m'interdis d'écouter l'information parce qu'un coup il y a un meurtre, un coup il y a un enlèvement, un coup il y a un. Et je me dis, j'écoute qu'une fois par semaine la radio. Une émission généraliste ou une émission de résumé d'informations qui fait que j'ai de l'information. Certes, on ne va plus parler du dernier enlèvement, où ça existe, je sais, c'est de la société est devenue dangereuse, mais à nous l'asséner tous les jours, en fait, on cultive la peur des gens. Et on ne sait plus, le changement, ça va très vite, la société va très vite, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Donc du coup, on peut se dire ça change et je dois m'adapter, mais je m'adapte à quoi ? Quels sont mes fondamentaux? Quelles sont les vraies valeurs? Qu'est-ce qui va rester de tout ça, quoi?
Non. Alors les peurs de chacun qui sont propres et les peurs collectives? Non. Après alors.
Non, je vais juste rajouter un truc, en fait, ça a peut-être été dit au début, je ne sais pas, désolée, par rapport justement aux médias. Ils cultivent la peur, mais s'ils la cultivent, c'est également parce que je pense qu'on aime bien avoir peur. Si, sincèrement, si on n'aimait pas écouter tout ce genre d'informations et tous ces enlèvements et tous ces meurtres, et si on n'était pas intéressé par ça, les médias en diffusent vraiment aussi. Ils font beaucoup plus d'audience à partir du moment où ça va être trash, où ça va être du sang, avec des enfants qui sont pris en otage ou je ne sais quoi, et ça fait vendre énormément et ça paye aussi énormément. Donc quelque part, je pense qu'on aime bien avoir peur, on aime bien se faire peur, et c'est peut-être justement aussi pour nous rassurer nous-mêmes. Ça arrive aux autres, moi je veux.
Intéressant. Continuez.
Alors, il y a une définition, c'est sourcé Wikipédia, hein, donc, bon, mais peu importe. C'est le contrôle des foules. Contrôle des foules. La peur a un effet très fort sur les foules et ainsi est utilisée afin de contrôler les foules et les peurs. Dans les systèmes totalitaires et dans l'esclavage traditionnel, l'objet de la peur est clairement identifié. Il s'agit d'une menace de punition ou de mort en cas de désobéissance. Dans les systèmes dits démocratiques où une telle menace n'est pas explicite, il importe plus de contrôler ce que pensent les gens en déformant les informations des médias et avec des menaces plus abstraites ou même virtuelles. La technique est avérée et reconnue et pratiquée. La presse appartient à des groupes de presse qui ont une ligne éditoriale et par définition, ils ne vont pas se tirer dans le pied. Donc, le bienfait de la presse, ou de l'information, de la libre information, elle est toute relative. Mais TF1 disait bien que c'était des minutes de cerveau disponibles pour Coca-Cola. C'est un outil d'abrutissement. C'est pas un outil qui nous élève. C'est pas un outil de réflexion. C'est pas un outil qui a peine à critiquer de manière positive les choix de la politique, du moins de la politique citoyenne, et c'est-à-dire collective, de la collectivité, du public, c'est-à-dire de nous tous, de l'ensemble. Donc les peurs, effectivement, on peut jouer l'autruche, c'est-à-dire se mettre la tête dans le sable, on peut essayer de se fortifier, c'est-à-dire d'avoir une place forte, un siège, de le conforter, d'essayer d'aller dans le sens des puissants pour éviter, mais il reste toujours les gens qui sont le jeu des chaises musicales. Le jeu des chaises musicales, c'est un moment sur 6, il n'en reste que 5, il y en a un qui part. Donc, l'incertain. Et la précarisation des situations, bien sûr, rend une incertitude sur nos choix intimes et profonds, sur notre devenir, parce qu'on est contraint par l'incertitude et l'appréhension de la précarisation. Alors certains encore au gouvernement ou proches du gouvernement diront que l'amour est précaire, que le travail est précaire et que tout ça, mais quelle valeur humaniste il y a là-dedans? C'est-à-dire, en replaçant l'humain, déplaçons l'économie, et gérons effectivement les peurs ou les pandémies qui arrivent, mais ne créons pas des situations de mise en danger, c'est-à-dire par la perte des abeilles, par les algues vertes, par la monoculture, par les OGM, par XX développement innovant qui bénéficie encore à des industries, qui nous impose un mode de fonctionnement, de vie, et qui nous contraint à une précarité dans nos emplois face à l'économie par un dumping social qui nous remet tous à un niveau de... Le travail est précaire, ma situation et mon identité sociale est précaire, donc je suis dans la rareté et la peur de perdre mon emploi. Donc on entretient la peur au service non plus de l'humain, mais au service du système capitaliste. Donc même si on fait de l'accompagnement en disant oui, il faut y aller dans le sens, et puis bon, non, c'est justement le choix du sens qui doit revenir aux citoyens, il ne doit pas être dicté par l'économie, c'est le citoyen qui doit dicter le sens de l'économie. Et c'est pas la régulation par le marché, ça c'est effrayant. Effrayant d'envisager qu'on a 40 ans de dettes à régler ou des trucs comme ça.
Des exemples personnels, j'aimerais beaucoup. Vous n'avez jamais eu peur, vous, chacun dans votre coin? Parce que j'ai l'impression que on est très... personnellement, je suis au RMI et j'ai pas peur de demain. Je suis peut-être bizarre, mais je suis pas comme les autres. J'ai pas peur de perdre mon emploi, j'en ai pas. Comme ça, ce problème se pose plus. Et depuis quelque temps, j'ai même plus peur de la police, puisque depuis quelque temps, j'ai aboli les peurs. Mais par plein de chemins différents, parce que au bout d'un moment, à force de me confronter à certaines réalités, j'ai su dire non, stop, ça suffit, je veux plus rentrer dans le jeu de la manipulation. T'en parlais très bien tout à l'heure. Et j'ai noté la manipulation de la peur par la presse. Donc, éventuellement, des témoignages plus personnels sur vos angoisses liées à la peur et peut-être la façon dont vous avez su réagir. Le jour où vous avez su dire non, stop, je ne veux plus avoir peur, parce que la peur ne fait que me mettre dans des situations plus périlleuses encore. Et on a peur de l'avenir. Je vous la donne juste après. On a peur de l'avenir, mais après tout, l'avenir, si on ne la crée pas tout de suite, il n'y en a pas d'avenir. Donc.
Je vais bien donner un exemple personnel. Donc, je suis enseignant, et puis donc de nos jours, quand on enseigne, il y a un certain nombre de risques avec donc tout ce qui peut se passer en classe, hein, je suis au collège. Il peut y avoir des problèmes dans la classe même, en dehors de la classe. Par exemple, des photos peuvent être prises dans la classe à notre insu, mises sur Facebook, etc. Les parents peuvent mal comprendre certaines choses, et puis donc aussi il peut y avoir des problèmes de ce côté-là, avec la hiérarchie qui demande de plus en plus de choses. Mais je crois que c'est pas que dans l'enseignement, mais dans toute la fonction publique c'est difficile, et puis aussi dans le privé bien sûr. Par exemple, être enseignant, mais il n'y a pas que enseignant bien sûr, aujourd'hui c'est pas facile. Alors c'est sûr que si on pense tous les jours, à chaque fois, à ce qui peut se passer, on s'en sort pas. Hein. Donc on est obligé de faire confiance un peu, de se faire confiance. Et là, je dirais que la peur, à ce moment-là, elle prend un autre visage. De toute façon, on a peur de quelque chose qui n'existe pas. On a toujours peur un peu, c'est un peu un fantasme, hein, quelque part, qui n'est pas encore réalisé, ou qui pourrait arriver, ou qu'on pourrait dire, ou je ne sais quoi. Donc, finalement, elle est là. La peur, mais elle a son existence, mais quelque part, on peut lui donner l'importance qu'on veut. Et puis, si on prend confiance en soi, j'ai remarqué, moi, donc, hein, dans, par rapport à l'enseignement, par rapport à ce que je fais, bon, bah, si on a confiance en soi, on sait qu'on est, on a sa conscience. Hein, quand on se lève le matin, on sait ce qu'on fait, et puis, voilà. C'est un exemple.
Peur de Facebook, au passage, je profite de rappeler que qu'au niveau du droit à l'image, on fait signer aux enfants qui sont au collège le droit à l'image, hein, absolu. Eux, ils ont le droit de rien dire, ils en signent et après, ils ont le droit de donner leur image pour que ça fasse bien sur les journaux.
Moi, je voulais juste compléter aussi ce qu'avait dit tout à l'heure la maman. Moi, je pense que c'est important pour vos enfants, bien sûr, de leur donner une certaine culture, parce que pour pouvoir pour changer, justement, il faut avoir aussi des bases. Mais moi, j'allais dire la chose la plus importante, apprenez-leur à avoir confiance en eux. Ça, je suis persuadée que... Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais après, on n'a plus peur, on vit au jour le jour, on ne voit plus les choses pareilles, même si... Et comme disait tout à l'heure mon voisin, la peur, moi, je pense qu'il en faut, il faut dépasser, il faut une dose de stress, pas un stress, en effet, une dose. Il y a le beau et le mauvais, je pense que c'est vrai. En plus, on ne sait pas l'avenir, je pense que bon, tout le monde a peur, mais il y a plein de gens, moi je le vois dans mon métier tous les jours, et des collègues aussi, ils ont tellement peur qu'ils ne bougent plus, ils n'avancent plus, ils sont contre tout, et je ne supporte plus. Là-dessus, les gens contre tout, je ne supporte plus. Même si je ne suis pas forcément d'accord, mais j'essaie de vivre le jour, et d'apprécier plein de choses que je n'appréciais pas avant, des petites choses, des détails. Alors bien sûr, l'économie, je suis comme tout le monde, et plein d'autres, la maladie, et plein d'autres choses. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est aussi apprendre les gens, et ça c'est avec la vie, à évoluer, à rencontrer d'autres, et peut-être à aller moins vers cette société de trop de consommation, il en faut, hein. Je suis comme tout le monde, l'économie, on a envie, il ne faut pas dire aux gens, consentez-vous de peu, mais peut-être pas toujours faire cette course comme c'est actuellement. Puis le changement, c'est vrai que c'est important. Je pense que maintenant, toute sa vie, on l'avait déjà, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a les couples, il y a beaucoup de choses qui changent une famille. Donc, en effet, il faut retrouver des valeurs humaines, et ce n'est pas très simple. Mais je pense qu'il faut aider à la confiance et à donner, par contre, il dépend.
Donc, le facteur changement est un facteur de stress supplémentaire et la solution, la confiance en soi. Apparemment, il y a plusieurs personnes.
Ça fait partie aussi, je pense. On ne peut pas les élever dans la peur tout le temps de tout parce qu'on les bloque en leur disant tu seras chauvin.
Alors, moi, j'ai une manière aussi de lutter contre mes peurs qui n'était pas très courageuse, c'est aussi de ne pas y penser. Je vois, moi, il y a des fois, je vois un reportage sur des enfants malades, enfin, qui peuvent avoir l'âge des miens, et je change, enfin, c'est peut-être bête, mais il y a aussi une chose qui me fait très peur, moi, c'est les accidents de la route. J'ai la chance d'avoir un mari et mes fils qui travaillent et qui vont à l'école sur la commune où j'habite. Je suis la seule à faire des kilomètres, enfin, j'en fais 50 par jour, c'est pas énorme, mais c'est quand même ça. Et c'est vrai que si tous les matins en partant, je suis quelqu'un qui roule pas vite, je pense être assez prudente sur la route, tous les matins je suis doublée par les mêmes personnes qui roulent en minimum, vu qu'il faut 20 km/h de plus pour doubler une voiture, donc vu que moi je suis à 90, 92, bon voilà, eux sont au minimum 110. Et puis bah, c'est vrai que la dernière fois, en une semaine, sur ma route, il y a eu 2 morts. Et alors c'est vrai que le matin-là, quand vous arrivez au boulot, bah, vous n'êtes pas forcément en forme. Et puis le lendemain, vous repassez au même endroit, vous voyez l'étage d'huile sur la route, vous dites putain, c'est bon, vous y repensez et tout. Puis il y a un moment, vous vous rendez compte aussi que bah, vous ne pouvez pas tous les jours, quand vous prenez le volant, vous dire bah tiens, voilà, ça fout la trouille, il y a des gens qui roulent comme des cinglés. Et puis ça se trouve, le jour où ils me rentreront dedans, ce sera moi qui serai mort, c'est pas eux. Et je sais que voilà, ma façon peut-être pas très courageuse. Moi, de mon côté, je me dis. Je fais ce que je peux pour bah, ne rien risquer sur la route en ayant une certaine prudence. Et puis après, j'essaye de ne pas y penser. Parce qu'autrement, je pense que je deviendrai assez vite folle. Voilà.
Donc la peur est une cause de... La mort, pardon, est une cause de mort. La mort accidentelle. pas la mort par maladie. Là, pour toi, ton
pour moi, oui.
Apparemment, oui. La mort accidentelle, quelle qu'elle soit, sur la route, je suppose ailleurs aussi, est un facteur de peur important. Et ton meilleur moyen, c'est de pas y penser.
C'est une façon d'exorciser la chose, je pense.
C'est aussi une manière de... Enfin, c'est la vie, hein. Oui. La vie, dans tout son instinct le plus primitif, c'est d'oublier qu'il y a la mort.
Moi, je vis l'instant présent. Donc, quand on ne se projette pas, la peur n'est pas là. Parce que la peur, c'est l'imaginaire. C'est notre esprit travaille beaucoup. Donc, l'imaginaire est plus fort que la réalité. C'est ça. Donc, vivez l'instant présent, soyez optimiste. Un exemple, je vis comme ça. J'ai traversé beaucoup d'aléas et de souffrances. Je vis l'instant présent. Et je n'ai plus de peur.
Et là, je peux rebondir sur l'effet de l'imaginaire sur la peur. C'est vrai qu'on imagine très vite le pire et du coup, ça devient le facteur de la peur, quoi.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Et puis, quand on regarde les époques, il y a toujours eu des causes de peur. À l'approche des guerres, les deux guerres que nos parents, grands-parents ont connues, etc., on a toujours eu des périodes de façon difficile historiquement partout. Il n'y a jamais eu vraiment de temps... Donc là, c'est un temps aussi difficile, peut-être parce que c'est flou tout ça, hein, cette économie, ces règles, et puis...
C'est pas de l'économie, quand même. Non, mais c'est vrai, je trouve ça fou, parce qu'après tout, je vais peut-être la parole en priorité aux gens qui n'ont pas parlé beaucoup, donc...
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vivre au jour le jour, c'est vivre dans la fatalité. Moi, je ne suis pas dans la fatalité. On a des droits, on est des citoyens. On a, alors je vais appeler ça des outils, mais en tant que salarié, j'ai la possibilité d'être syndiqué. J'ai le libre choix. Si je suis syndiqué, je peux dire non à mon patron, c'est la possibilité de dire non. Il y a des a priori, il y a des confusions, mais c'est un droit. Je le prends. Parce que c'est pas une fatalité si aujourd'hui, quand il y a des personnes qui n'ont plus de recours, qui sont vraiment surtout dans des situations au niveau professionnel, dépourvues de tout, c'est pas normal. On dise c'est une branche qu'on doit laisser partir, oui, la France n'est plus bonne. On est tous des salariés, on a des droits. On a des droits aussi en tant que citoyen. Moi j'ai des enfants qui sont majeurs. Bien avant leur majorité, on a eu des échanges, on a parlé un petit peu de déjà qu'est-ce que la Constitution. J'ai eu l'occasion de donner des cours pour des jeunes en licence, expliquez-leur le préambule de la Constitution. La Constitution, quand on vote pour les députés qui votent pour les sénateurs, on fait un petit débat là-dessus. On y va ?
Alors, au fond, de débat citoyen, normalement, il y a un
caractère pour. Alors, ce que je veux dire, c'est nos outils. C'est ça, vous voyez ? C'est-à-dire, c'est ça. On a plein d'outils pour éviter cette fatalité. Et contrarier cette peur. Donc, vivre jour le jour, pour moi, c'est le prendre dans la fatalité. Utilisez les outils. On va, effectivement, vous avez raison, j'ai peut-être été trop axée vers l'économie, mais parlons rien que des examens de santé. La sécurité sociale développe des examens de santé, des examens de prévention. Il y a des gens qui refusent par peur, qui vont peut-être avoir cette grave maladie, mais par peur. Et c'est une démarche qui est totalement personnelle. C'est nous, en tant que citoyens, c'est quelque chose de... Donc, après, nos valeurs à nous, elles sont ce qu'elles sont, et comment les enrichir, les faire partager,
la fête des voisins, vous voyez, la fête des voisins, moi je trouve que la fête des voisins, j'ai passé vraiment des choses, j'ai eu de très belles rencontres avec la fête des voisins, des échanges, j'ai changé de quartier parce que j'ai aussi des moments difficiles actuellement, il a fallu que je déménage, je repars à Viro. Je souhaite faire de belles rencontres et pouvoir échanger. Enfin, on a des outils. Voilà.
Donc je note deux choses. Donc lutter par, contre la peur au niveau collectif, donc avec, à plusieurs, que ce soit par le phénomène, comme vous disiez, les syndicats. Et puis aussi, non mais c'est bien, c'est intéressant que lutter par la peur, on a moins peur si on est plusieurs. C'est intéressant de voir que comme on est nombreux, on a moins peur. Bon, des fois ça peut générer le contraire, à voir. Et puis le deuxième exemple, c'est la peur de la vérité, sur le plan de vue médical. Je serais dans ce cas-là, personnellement. J'aimerais pas me faire un bilan, je veux pas savoir de quoi je vais mourir. J'ai pas vraiment envie de savoir. C'est peut-être un peu pour revenir dans l'instant présent, mais je ferais partie de ces gens-là.
Vivre dans l'instant présent, c'est pas accepter la fatalité, c'est vivre dès qu'il y a un problème, justement, dans l'instant présent, on règle le problème, on lutte aussi s'il y a eu quelque chose à lutter, dans l'instant présent, c'est pas accepter les choses, c'est de le vivre au moment où ça se passe, et non pas se projeter dans le problème qui va arriver demain. Bon, on l'a déjà, on l'appréhende, mais on ne s'imagine pas le problème.
Qui fait comme l'enfant qui voit l'ombre sur le rideau et il voit une sorcière.
La peur de nous ou la peur de nous.
Je vais passer un peu du coq à l'âne parce que je change un peu. Mais je reste dans le domaine de la peur. En fait, moi, c'est une question. J'ai pas de réponse. Hein. C'est une question que je me suis posée moi-même depuis longtemps déjà. Et est-ce que la peur, c'est pas quelque chose qui est inné et contre lequel on ne peut pas forcément jouer? Je dis la peur, c'est en général, c'est pas la peur de quelque chose en particulier. On peut lutter contre une peur en particulier, mais je parle de la peur en général. Et par rapport à ça, j'avais lu il y a très longtemps de ça, une étude en fait sur des rats depuis plusieurs générations qui n'avaient pas connu du tout le feu, n'avaient pas peur du feu. Et quand il y avait un incendie, ils se faisaient brûler vifs. Et les quelques rescapés, par contre, qui étaient gardés, eux, après en laboratoire, ils se reproduisaient. Et sur 5 ou 6 générations derrière, on s'apercevait que les nouveaux bébés rats avaient peur, eux, du feu. Donc, est-ce que, pour nous, il y a des phénomènes similaires? C'est possible également. Je sais qu'il y a eu pas mal de théories là-dessus, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui a été prouvé. Mais est-ce que la peur, c'est pas quelque chose qui est inclus en nous parce que nos générations avant ont vécu justement des choses qui étaient terribles, l'esclavage, ou les guerres, ou la famine, les grandes maladies. Et même si nous, on ne retrouve pas ces situations-là, on garde des peurs et on les transpose sur les choses qui nous environnent et qui finalement ne donnent peut-être pas matière à avoir peur comme nos ancêtres ont eu. Mais
c'est une question. Peur, un facteur génétique.
Oui, la peur, en fait, dans une vie, le cheminement de vie, les changements, les évolutions, c'est pas toujours évident parce que ça génère un déséquilibre. Et en fait, ce déséquilibre, il est plus ou moins accepté selon la personnalité qu'on a, selon notre faculté à s'ajuster, à se rééquilibrer. Il y a des gens qui vivent mal ce déséquilibre. Et là, je parle dans tous les domaines, que ce soit personnel, comme tu disais, les problèmes de famille, de couple, les problèmes financiers, les problèmes de travail, ou médicaux, de maison, de logement, toutes ces choses-là. La peur, elle est inhérente à l'espèce humaine, c'est sûr. Enfin, chez les animaux aussi, il y a une forme de peur, mais si on veut rester chez nous. Et c'est vrai que ce déséquilibre, après, il faut apprendre à gérer ce stress qui peut être effectivement positif et donner l'envie d'avancer, d'évoluer. Il faut se tourner vers, comme tu disais, des outils, tout un tas de choses pour réguler un petit peu ce déséquilibre. Le déséquilibre, par définition, on le vit plus ou moins bien. Il y a des gens qui aiment bien être un peu en équilibriste, comme ça, sur le fil du rasoir. Ça les dope, ça leur donne de l'énergie pour avancer, ou pour régler une situation, ou pour boucler un dossier si on est en retard. On l'a tous peut-être plus ou moins vécu. Moi, je sais que j'attends toujours un peu la dernière minute pour boucler mes dossiers ou faire un travail que j'ai à faire, parce que je sais que je vais avoir un coup d'épée dans le dos qui va me donner l'énergie et l'étincelle pour rédiger ou faire ce que j'ai à faire. Mais après, chacun, il y en a qui n'aiment pas être dans cet état de déséquilibre, mais ça peut être regarder les grandes créations artistiques, que ce soit de la peinture ou de la musique ou de la danse. Souvent, c'est généré par un déséquilibre, donc une forme de peur. Après, il faut apprendre à gérer en se regroupant, oui, en discutant, et puis en savourant les petits moments. Moi, je suis aussi une adepte de savourer toutes les petites choses de la vie, toutes simples, qui te nourrissent, que ce soit discuter avec les gens, profiter d'une jolie maison, d'un reflet de soleil, d'une bonne simplicité, mais partager les choses, pas être aussi nombriliste. Ce déséquilibre, tu peux arriver à le négocier mieux. Voilà.
J'ai entendu des choses intéressantes au niveau j'imagine tu pensais au sport extrême, aux gens qui ont besoin de se faire peur pour toujours avancer, lié à l'adrénaline ou ce besoin d'adrénaline constant pour faire des choses.
Non, je
ne
suis pas spécialiste.
De
là,
l'endorphine.
C'est ce qui est à partir du moment où on a fait un effort physique prolongé. Oui. Donc c'est une hormone de plaisir. Oui. L'adrénaline, elle est sécrétée naturellement dans une situation de stress. Oui.
Toujours pour ressourcer, j'ai pas trop préparé, mais j'avais comme j'avais. Donc je vais prendre le. C'est nommé, toutes les choses qu'on dit ont déjà été définies, ont une définition. C'est angoisse et stress. On parle du stress. Moi, je suis contre le stress. J'ai horreur qu'on me stresse. Et comment je vais réagir? C'est, je vais être désagréable parce que je vais créer un stress à l'autre. Soit je fuis, soit je m'en défends. Et pourquoi j'ai pas à subir le stress? Ça, donc angoisse et stress, ils disent, ce qui est marqué encore selon Wikipédia, une peur prolongée, c'est-à-dire qui est installée. Alors c'est pas confortable. Une peur installée, c'est un inconfort. On met répéter entraîne un sentiment d'angoisse. Donc ça non plus, c'est pas génial. Mais on a les anxiolytiques, les antidépresseurs, on est le premier consommateur, donc c'est quand même qu'on est en bonne santé quelque part. Donc on parle alors de situation anxiogène. Elle amène bien souvent à un état de situation dit de stress. Donc on passe par l'angoisse, et une fois que c'est installé, que ça dure, que ça déstabilise, arrive le stress, mais après l'angoisse. Donc on peut déjà être angoissé, bon c'est une chose, mais le stress c'est un niveau après. L'angoisse est une peur intense. Parfois chronique, elle augmente lentement et finit par atteindre un pic, dit crise de panique ou crise d'angoisse, occasionnellement à de très sérieuses difficultés respiratoires. Ça, c'est la crise d'angoisse. Donc, elle rend malade. Elle rend malade. Donc, elle est bonne pour l'industrie pharmacologique. Hein. Donc, c'est bon, il n'y a pas de. Mais bon. Les thérapies comportementales sur la peur se fondent sur ces observations, et, tout ça. Effectivement, la peur, il y a un curseur. Les animaux, mais on pourrait à la place du moins, normalement il faudrait que je parle. Donc, je me rapproche plus du singe selon Darwin que du rat. Donc, le singe va selon Darwin. Bah oui, on est créationniste ou évolutionniste. Moi, je suis athée matérialiste, donc je ne suis pas carpédien, mais je serais plus. De Lucrèce et Épicure, donc épicurien. Les religions, sur la peur de la mort, traitent par l'enfer, le jugement, le paradis, la peur de la mort, c'est la peur. On a peur de l'inconnu. L'inconnu, pour moi, englobe le changement. Le changement est une situation qu'on n'a pas encore rencontrée, donc c'est un inconnu. Voilà, c'est quelque chose d'obscur, c'est les ténèbres, rentrer dans les ténèbres, c'est pas génial. Donc on préfère voir où on met le pied que on peut créer. La peur disparaît lorsqu'elle est répétée. C'est-à-dire, la première fois, on a peur, la deuxième fois, on s'y attend, la troisième fois, on sait comment ça se passe, et puis, effectivement, à force de rencontrer le même phénomène, on l'intègre. Donc, ce que je voulais dire par rapport à l'évolution, c'est que si l'être humain n'avait pas peur, il n'y aurait pas, on n'existerait plus. C'est là où il y a un curseur, mais c'est comme l'économie où elle ne doit pas s'autoréguler. C'est qu'il faut qu'il y ait, elle ne peut pas se réguler elle-même. Il faut qu'il y ait des curseurs et qu'ils soient définis par l'humain, non pas par le système. Donc là, il faut remettre, c'est pas libre et libre de tout, c'est, il faut remettre. Donc effectivement, les deux réactions, sans la peur, eh ben on sauterait dans le feu, on serait disparu, et puis la peur a permis de se préserver, et puis d'appréhender, de s'organiser. C'est bon, à ce niveau-là, elle est bonne. Mais il faut pas chercher à l'instrumentaliser pour déstabiliser le psychique, pour l'instrumentaliser à des fins, du moins orientées, quoi. C'est le libre arbitre de chacun d'être dans son vécu, que ça soit de l'immanence du temps plus bouddhiste, épicurien ou le dogmatique ou religieux ou spirituel, mais chacun peut vivre et on n'est pas dans un seul moule et tous pareils, contraints au même stress. Quoi, c'est...
Moi, ça me fait peur.
Ok, donc j'ai noté pour tes peurs, stress, j'ai noté quand même que tu as parlé de peur originelle, un thème qu'on n'a pas trop abordé, hein. Et l'industrie pharmaceutique, thème non plus qu'on n'a pas spécialement abordé, mais qu'effectivement il est présent. Dans la peur, c'est toute l'industrie pharmaceutique qui y est liée.
Oui, moi ce qui m'étonne, c'est quand tu... Ça fait plusieurs fois que tu dis ça, c'est juste une interrogation, moi, je le respecte complètement. L'inconnu, tu parles à chaque fois de ténèbres, de couloirs noirs... Alors que moi, inconnu, bon, bah, c'est des choses nouvelles, c'est se tourner vers les autres, sur des sujets, des espaces nouveaux, des rencontres, de la communication, de la découverte. Pour moi, l'inconnu, c'est plutôt ça. Alors, il y a des choses dangereuses, il y a des choses, des zones à risque, des choses comme ça, mais... Ça fait plusieurs fois que tu...
Ouais.
Bon, alors je pense que tu pensais à des sujets, des espaces bien précis, mais il y a des gens qui sont, enfin, je ne parle pas de toi là, je parle en général, maladivement paralysés par ce qui est inconnu, ce qui est nouveau. Ne serait-ce que discuter avec quelqu'un, aller dans un lieu nouveau, découvrir des sujets et des notions nouvelles, donc il faut aussi savoir s'ouvrir à... C'est aussi un enrichissement personnel et c'est aussi se rassurer en se disant ben, depuis la nuit des temps, on s'en fait de la philosophie de comptoir, depuis la nuit des temps, le questionnement des hommes reste le même, je veux dire, on se pose tous les mêmes questions avec notre époque, avec nos problèmes socio-économiques et... Voilà, donc je pense qu'il faut, enfin, à moins que j'ai que tu sois resté dans un sujet plus sombre et ténébreux, mais bon, voilà, l'inconnu peut être richesse aussi.
Mais laissez le temps de te poser, je vais donner juste la parole. Attends, après, ça te permet de...
Moi, je voudrais nuancer sur quelque chose, la peur a des tas de nuances. Bon, par exemple, si vous prenez un parc d'attractions où il y a des manèges où les gens adorent se faire peur, ils y vont pourquoi ? Parce qu'ils sont quand même inconsciemment pris en charge par les techniciens, les gens qui ont conçu le manège. Donc, ils savent qu'ils vont avoir peur, ils vont se faire peur, mais avec peu de risques, en principe. Hein. Il y en a aussi, il y a des accidents. Bon, mais il y a un autre cas qui est, enfin, moi je le connais, mais... C'est par exemple, si il y a des gens qui savent piloter ici, non ?
Oui.
Bon, alors vous avez votre licence. Bon, alors vous connaissez le phénomène du lâcher. Bon, quand on apprend à piloter, il y a un moment, on est en double commande, on est pris, il y a un instructeur, puis à un moment, lui considère que vous êtes capable de le faire. Vous n'êtes pas sûr, vous, lui sait, hein ? Et c'est connu que historiquement, il n'y a jamais eu un accident le jour où on a lâché quelqu'un pour la première fois. Lui était persuadé que, hein, mais l'instructeur savait qu'il avait acquis tous les, tout ce qui était nécessaire, tous les réflexes inconscients pour voilà. Alors ça, c'est un exemple aussi de peur qui est une fausse peur, parce qu'elle correspond à quelque chose qu'on apprend, et puis c'est banal, hein. T'es bien d'accord ? Bon. C'est complètement banal, mais il y a ce phénomène d'être lâché. Donc que le moniteur fait, on fait deux tours, et puis ensuite il descend, puis on part tout seul. Bon. Ça se manifeste quand on parle aux gens par des tas de phénomènes psychologiques, mais jamais ils ressentent à ce moment-là la peur. Ils sont dans un espèce d'état second, ils sont pris par des réflexes et ils font. Voilà. Bon. Ça, c'est des peurs qui ne sont pas les peurs dont on parle actuellement, parce que les peurs psychologiques, elles sont par rapport à des situations qu'on ne maîtrise pas du tout. Et que personne, en fait, ne maîtrise. Moi, je pense que c'est ça qui est une des causes. Et puis, quelque chose qui est à côté, c'est je pense aussi que l'échange est très important. C'est-à-dire que les gens qui ont peur, si on est tout seul avec sa peur, et si on s'aperçoit que d'autres ont peur, pas de la même façon, donc finalement, c'est ce qui est fait ici, c'est un échange. Et c'est important pour, entre guillemets, se rassurer. Pas pour résoudre le problème, mais pour trouver peut-être une solution chez l'autre et pour arriver à maîtriser ça. Voilà.
D'accord, pour se rassurer, on a bien dit que souvent, les phénomènes de panique, c'est l'inverse.
Oui.
Ça transcende.
Alors, par rapport à tout ce qui est manège et tout ça, moi, c'est vrai que j'y vois plus des sensations qu'une peur. C'est vrai que si, moi, j'ai fait du saut en parachute. Bon, c'était plus une question de sensation. Alors, chose que je ne serais plus aujourd'hui, j'avais 19 ans. C'est vrai que, par exemple, quand on peut parler de peur aussi, il y a des choses que j'ai fait à cet âge-là. J'ai sauté en parachute, j'ai sauté à l'élastique, j'ai fait diverses choses qui me donnent. Voilà, qu'aujourd'hui, en tant que mère de famille, je ne ferais plus. Je pense que c'est aussi une peur liée, on va dire, à des responsabilités autres. Je considère que j'ai pu aller la faire à la folle. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est une peur ou si c'est une conception des choses. Mais bon, donc voilà, pour moi, c'est plus des sensations que de la peur. Mais bon. Et moi, il y a une autre chose aussi, c'est par rapport à nos enfants. Quand je vois maintenant ce qu'on leur montre à la télé, je me demande s'ils auront encore peur de certaines choses par rapport à nous. Aujourd'hui, vous regardez Navarro, franchement, c'est un policier de tapette, comme excuse l'expression, mais par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, quand j'entends des amis qui me disent que leurs enfants de 8 ans, de 9 ans regardent NCIS le vendredi soir, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais au niveau des images qu'on peut voir, les enfants qui... toutes des images qu'on peut montrer qui sont très crues dans toutes ces séries. Tout à l'heure, vous disiez que vous coupiez la radio. Mais les gens, on a l'impression, là je me rapproche un peu, ils aiment avoir peur. Parce qu'il y a un degré de violence, d'images crues qu'on voit dans ces séries. Et nos enfants, j'ai l'impression que ce qui nous peut nous choquer, enfin moi, en tout cas, ce qui peut me choquer des fois à certains âges, à mon âge, et bien que finalement, eux, alors moi je sais que je suis très précautionneuse par rapport à mes enfants, toutes ces choses-là, ils ne les voient pas. Ils les verront bien un jour, ils vivent pas dans une bulle. Mais je me dis, j'ai l'impression que les gamins, il y a un moment, ils n'auront plus peur de rien, parce qu'ils en auront tellement vu, que finalement, voilà, là où nous, on doit se dire, waouh, ça fait peur, et ben eux, c'est devenu classique. Et c'est, voilà. Et moi, là,
Bourges, on est doué pour les armes blanches, c'est ton fait.
Non, mais voilà, justement.
Je vais quand même te donner la parole pour. Et après, il y a une autre personne qui voulait nous parler.
C'était pour préciser mon obscurité, c'est pas ma noiritude, mon obscurité, c'est effectivement qu'un inconnu incarné, c'est-à-dire un inconnu éclairé, illuminé, reconnu par les sens le toucher, les sens, il est incarné, il est inconnu, on va avoir peut-être une curiosité, soit une fuite, on va l'aborder. Quand je parle d'obscurité, c'est les néants, c'est l'absence de repères, c'est sortir, c'est renaître à la lumière. Après la lumière, l'environnement, on va, en fonction de ses propres sensations, sentiments, on va. C'est là où c'est pas l'obscurantisme que je veux faire. C'est une image philosophique de salon de café, de salon de thé. Donc pas de comptoir, sur le juste, c'est du moins je crois que c'est dans les rites initiatiques en maçonnerie, ils doivent avoir cette phrase-là que j'ai lue quelque part et qui me... Bon, voilà, ton premier ennemi, c'est toi-même et des choses. Bon, c'est de la symbolique. C'est symbolique. C'est, l'esprit grégaire dans les grottes était de... Et quand il y a eu la lumière, on a eu moins peur. Donc, c'est quand il y a eu le feu, le foyer, ce qui remet toute l'humanité. C'est le foyer, c'est la création de la famille, c'est l'endroit où on se nourrit, c'est l'endroit où on va avoir une sécurité. La peur engendre l'insécurité, la peur entretenue qui amène au stress. Donc, bien sûr, on va dire, ouais, bon, je m'en sors, donc c'est bien, je m'en sors. Mais on a été conditionné à ce contexte. Et on est dénaturé de la nature psychique, elle est dénaturée pour être mise dans un état, pour être entretenu dans un état, et puis effectivement, pour pas tomber dans la folie, la folie, c'est que les actes que l'on fait, ils ont besoin d'avoir une raison et d'être positif. Donc, l'être humain arrive à... On voit ça par les camps. Les camps, on voit que l'être humain arrive à dépasser des choses insupportables. Donc, effectivement, on arrive toujours à positiver, mais est-ce que c'est bien la nature de l'être? Et est-ce que c'est pas un mécanisme induit par un système qui en tire des profits en servant de l'être humain comme une matière? Moi, je demande à reprendre ma place d'être avec
les boissons et tout.
Bien, j'ai quand même relevé deux petites choses sur la peur de la folie et aussi sur la banalisation de l'horreur tout à l'heure. Et moi j'ai même noté trois choses, mais bon. Mais je ne me rappelle plus. Donc on était tout à l'heure sur la banalisation de l'horreur. Effectivement, les enfants ne voient pas les mêmes choses que nous quand on regarde le même film. Ça, j'en suis persuadée sûre et certaine. Je voulais te donner la parole.
Ton intervention me faisait penser à une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui disait que la seule peur qui appartient à l'être humain, elle est générée par l'instinct de survie. Quand on est enfant, si on a peur, c'est l'éducation qui va nous amener la peur. C'est parce que ça, on va montrer que c'est l'esprit. Mais la seule peur qui appartient vraiment à l'être humain, au départ, en tant qu'animal, c'est je dois pouvoir respirer, manger et ne pas mourir. Ce qui fait que quand on commence l'éducation, la religion, l'environnement, les messages économiques font qu'on a d'autres peurs qui se développent. Et quand on est enfant, donc on nous apprend certaines peurs. Quand on est ado, on n'a peur de rien. Même pas d'avoir un couteau dans sa poche et de mettre... Parce qu'on ne se rend même pas compte en fait de l'impact que ça a. Et c'est petit à petit, quand on grandit, quand on a des responsabilités, que là on a d'autres peurs et on se construit d'autres schémas. Et l'environnement, il y a beaucoup. Aujourd'hui, on crée des peurs et on parle de l'économie, mais c'est clair. Aujourd'hui, on nous fait peur pour peut-être aussi, quelque part, nous maîtriser, comme le font certains courants de pensée, certains courants religieux. Enfin, ça peut aller très loin. Là, on crée d'autres peurs que celles qu'on devrait n'avoir normalement que de vivre en société et de survivre.
Et c'est souvent le thème de beaucoup de livres, je pense à 1984 tout d'un coup, mais effectivement, les instincts grégaires sont avec nous ce soir. Ah.
Donc moi je voulais rebondir sur deux choses. Alors la première c'est par rapport, on a parlé d'optimisme, et moi je suis quelqu'un très pessimiste. Et pourtant je suis entourée d'optimistes, mais bon non. Et je trouve qu'au niveau des discours qu'on a, alors politique, sans rentrer, il y a très peu d'optimisme. En fait, on est toujours, on va voter pas pour, mais pas contre. C'est pas pour un parti plus qu'un autre, ils fonctionnent tous comme ça. Et finalement, les discours qu'on a aujourd'hui, il y a aucun discours qui me fait rêver, il y a rien, c'est tout. Les discours. Qui vous régissent et quand on en ce temps, où est l'optimisme là-dedans? Moi, je trouve ça très déprimant et il y a, on nous propose pas de nouvelles choses. Enfin, c'est donc voilà, il y a ça aussi qui rend bien, je trouve. Et parce que c'était la peur par rapport à l'avenir.
Oui.
C'était enfin le sujet. Donc, parce que les peurs, il y en a plein dans le présent aussi, mais par rapport à l'avenir, moi, je trouve que il n'y a rien de très positif qu'on nous propose, quoi. C'est toujours contre quelqu'un, enfin contre ses idées, mais voilà, rien de pas de rêve, quoi. Et puis d'un autre côté, je voulais rebondir sur autre chose. Alors après, peut-être que je suis pas normale ou j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de ma génération, en tout cas dans mes proches, un bon tiers, hein, qui pour eux, l'angoisse, c'est justement la stabilité. Et pour lutter contre l'angoisse, c'est le changement. Donc changer de lieu, changer de métier, changer pour lutter contre la peur. Moi, il n'y a rien qui m'angoisse plus que la stabilité, un CDI, un mari, une maison, et voilà. Et c'est parti pour 40 ans, non, quoi. Donc, et ça, je ne suis pas la seule dans ma génération. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, avec, qui prennent tout ce qui est... Enfin, ce n'est pas mon cas, mais autour de nous, on entend tous les beatniks qui, voilà, qui partent sur la route et... pas de lendemain, enfin c'est quelque chose qui est très fort dans ma génération et qui, je pense, est aussi un moyen pour eux de lutter contre cette peur. Voilà.
La fuite. La fuite pour lutter contre la peur, éventuellement. Si, c'est à moi.
Il a récupéré le droit
de parler. Je voulais juste revenir sur un. Par rapport aux peurs, en fait, les scientifiques ont défini deux vraies peurs. Alors, la première peur, c'est un bruit très violent qui génère une peur chez qui que ce soit. Et la peur du vide, mais d'une très très grande hauteur. Apparemment, c'est les deux grandes peurs qui subsistent réellement. Au-delà de ça, c'est de l'imaginaire. Indépendamment du reste, les peurs vagues, etc. Alors, la peur génétique... elle existe bien évidemment pour tout le monde, puisque effectivement, comme on l'a dit, c'est un moyen de survie. Et donc c'est inscrit génétiquement dans nos gènes. Et il y a eu des tests, notamment avec des bonobos, il n'y a pas très longtemps, où on s'est aperçu qu'on a élevé des bonobos ne les mettant pas en contact dans la vie sauvage. Et quand on leur a présenté un serpent et des bruits de serpent, ils ont eu peur néanmoins, alors qu'ils n'avaient jamais vu de serpent, etc. Donc véritablement, il y a une mémoire génétique en tout cas. Loi de la mémoire, donc pourquoi pas un individu à plus forte raison quelqu'un de plus complexe au niveau de la structure. Pour ce qui est des ados, on n'a pas tout à fait abordé cet aspect là mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a souvent tendance d'ailleurs à les montrer du doigt en disant que c'est vrai qu'il y a les jeux vidéo, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui la peur, c'est montrer l'autre. Alors, pour ce qui est de l'ado, il faut savoir qu'à l'époque de la Grèce antique, on se demandait déjà ce qu'on allait faire de nos ados. À l'époque, on n'utilisait pas le terme d'ado, hein. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, la peur, c'est aussi l'autre. Et c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des contrôles des masses, hein, c'est aussi un moyen, effectivement, de reporter les problèmes et de montrer et de dire que l'autre, effectivement, c'est la cause de tous les maux. Donc... Alors pour revenir aussi pour le carpe diem de tout à l'heure, vive l'instant présent, j'ai rien contre, mais néanmoins il faut être vigilant. Comme le disait Monsieur Hessel dans son ouvrage, hein, il faut s'indigner quand quelque part il y a des choses qui méritent de l'être véritablement. Et puis pour reprendre à ce qu'a dit ma voisine, c'est aussi dire non. Et c'est à pas accepter le conformisme ambiant. Qui veut que, comme les médias nous disent qu'il faut avoir peur de tout, ben on va avoir peur de tout. Il faut justement essayer de faire ce que nous conseille la peur, ce pas de côté qui nous permet d'éviter, et puis de regarder justement ce qui se passe réellement et donc s'informer. Voilà.
Ok, tu voulais intervenir, tu te rappelles de ce que tu voulais dire?
Oui, merci. Oui, puis il semblerait aussi, là ça m'est venu comme ça en vous écoutant, la peur se développe quand on est seul. Finalement, quand on arrive à s'exprimer avec un ensemble de personnes, les voisins ou autres, ou une association, je ne sais pas, la peur diminue. Et il y a aussi la peur de perdre. Plus on a des chances de perdre, et on a peur de perdre aussi ce qu'on a amassé quelque part, ce qu'on amasse beaucoup dans notre société. Mais si on regarde objectivement, on ne peut pas continuer à vivre avec notre rythme de vie, parce que la Terre supporterait pas que tous les peuples vivent comme nous. Donc il y a un réajustement nécessaire, une sorte de sobriété heureuse, comme certains disent, comme Pierre Rabhi par exemple, dans le mouvement Colibri, mais bon, c'est un exemple parmi d'autres. Et effectivement, remettre en cause peut-être des excès que l'on a dans notre société, chacun à son niveau, une nouvelle façon de voir, est-ce qu'on est obligé de consommer comme ça, est-ce qu'on est obligé d'acheter comme ça, de produire comme ça, de manger comme ça, etc. Je connais une personne qui a écrit un livre qui explique très bien, avec beaucoup d'arguments scientifiques, que si on mangeait deux fois moins de viande, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes, puisque les animaux, il faut qu'ils mangent des céréales, par exemple. Donc, il y a beaucoup de cultures qui sont pour les animaux, et on ne peut pas continuer décemment à manger autant de viande que ça, et on n'en a pas besoin, d'ailleurs. Tout ça, c'est bien démontré. Mais c'est des habitudes aussi, tout ça. Voilà, donc c'est un ensemble de facteurs, effectivement, qui fait que la peur est là. On est fragile aussi, je pense, dans notre société actuelle. On est fragile physiquement, en général. On est fragile psychiquement, alors que nos ancêtres l'étaient moins, certainement. Alors qu'ils avaient parfois peut-être moins à manger. Et nous, on est sujet à un certain nombre de pollutions, à la fois physique, dans ce qu'on mange, bien sûr, et mentale, avec les ondes, avec ce qu'on voit, comme information, par exemple. Voilà, oui, effectivement, ça me... ce que je voulais exprimer. Merci.
Donc on va arriver sur la fin du débat. Comme vous avez remarqué justement Yann, c'est l'heure de faire le tour de table et de proposer le prochain débat du Café Citoyen qui aura lieu dans un mois. Mais juste une dernière intervention, oui. Tu voudrais bien en
faire. Mais c'est pas, voilà, je veux pas avoir...
Attends, je te donne le micro.
Alors, pour terminer, du moins, je vais lire un petit passage, c'est sur le, toujours sur ces Wikipédia. C'est surpasser la peur. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas laquelle. La plupart des peurs possèdent la propriété de pouvoir être surmontées. En effet, pour une personne donnée, il suffit souvent de surmonter sa peur une fois pour la faire disparaître définitivement. Cette aptitude à diminuer sa peur et à gagner ainsi en courage constitue un processus de maturation de l'esprit et de l'individu qui continue durant toute la vie. Ceci explique ainsi aussi que les enfants et les jeunes adultes sont en général beaucoup plus craintifs que les adultes plus expérimentés. La peur est d'ailleurs souvent détournée à des fins ludiques par les enfants, se mettant en scène et cherchant à se faire peur lors de fêtes, notamment telles qu'Halloween. Donc, nombre de sociétés ont travaillé, et c'était les Vikings qui c'était impie d'avoir peur. Mais bon, ils ont disparu.
J'adore Halloween. Ça désacralise la peur, c'est vrai. Après avoir trouvé quelques araignées dans mon lit, il s'est trouvé que j'avais plus peur des araignées après. Si quelqu'un veut éventuellement.
Juste.
Voilà.
Ce que disait madame là. En fait, il y a un livre, je ne sais pas si vous avez lu les livres d'Henri Laborit, il y a un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite, qui est remarquable parce que. Il positive ce qui apparaît comme une esquive. Il dit que c'est une façon de se débarrasser justement de ses craintes et de ses peurs. Voilà, je voulais juste dire ça.
L'éloge de la fuite,
L'éloge de la fuite, c'est d'Henri Laborit.
Bien, mais je vous remercie d'être venu, j'espère que ça vous a plu.